et en rediffusion les lundis de 10h à 11h sur les ondes de CIBL.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
Sur les ondes de CIBL 101.5, la radio libre à Montréal, et vous écoutez l'émission intergénérationnelle Trait d'Union.
C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? La guenille, la guenille, la guenille, papa. Si la vie voulait, ou bien si papa voulait, la guenille, la guenille, la guenille, volerait. Chacun dans sa bulle, chacun ses certitudes, la guenille, la famille, les guenilles volent pas. C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? C'est la faute à toi? La guenille vole pas. Si papa voulait la guenille, la guenille. Si maman voulait la guenille volerait. Mais papa veut pas la guenille, la guenille. Ma maman veut pas. Quelqu'un qui sera de mon goût. Oui, pas, je ferai comme vous. Choisirai quelqu'un qui sera de mon goût.
Trait d'unioniste. L'intro musicale annonce le sujet d'aujourd'hui. On parle de guenilles. En fait, on peut effectivement réutiliser nos vieux draps, nos vieux t-shirts pour en faire de la guenille, mais pas que. On souhaite vous présenter des alternatives dans le cadre de la semaine de la mode, mais surtout juste avant qu'ait lieu l'événement qu'est le festival Mode Circulaire Remode, où il sera question de la récupération et la revitalisation des textiles dans le Grand Montréal et ailleurs. Je suis Louise Curodeau et j'accueille l'équipe. Bonjour, équipe!
Allô!
Bonjour!
Bonjour, équipe mâle!
Bonjour!
C'est Alexis Curodeau-Coda que vous venez d'entendre et mes Amazones, Cathy Foucault et Marianne Frève. Puis j'accueille, bien évidemment, les invités d'aujourd'hui. Elles sont plusieurs. Il est lui-même. Alors, je vais commencer avec Natacha Beauchesne de la Ville de Montréal. Ça va bien?
Oui, merci. Bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Ah, bien heureuse de vous avoir avec nous. Marianne Frappe va intervenir, notre Amazon, en tant qu'expert.
Bien sûr, toujours présente, toujours contente d'intervenir sur les sujets qui me touchent, surtout la mode.
Bien sûr. Alors, on a avec nous Mariouche Gagné de l'entreprise, mais plus encore, Arikana, elle va nous dire ça tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour, bonjour, le Conseil des métiers d'art.
Eh bien, c'est pas rien. Hein? Anne-Marie Laflamme de Atelier B qui va être au téléphone en deuxième demi-heure. On a Claude Maheu-Picard. Là, elle va nous expliquer ce qu'est le CTTEI tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour. Merci de m'avoir invitée.
Ça fait vraiment plaisir. On a Marion Paquette, qui est une artiste designer, qui va être là en deuxième demi-heure. Mais virtuellement, on va l'entendre. Elle va être avec nous. On a Jules Trollet de Trollet, la compagnie,
exactement,
qui va nous expliquer quelle est cette entreprise que Trollet, que moi j'avais vue quelque part dans la presse. Je connais son existence. Et Jeannie-Claude vient de Concertation. Bonjour.
Bonjour Louise, bonjour tout le monde.
Il y a beaucoup de monde, n'est-ce pas? Alors, on parle de ça, on parle d'économie circulaire. Durant la première demi-heure, on va demander aux intervenants et intervenantes du milieu ce qu'ils ont fait pour revaloriser, réutiliser, récupérer, redistribuer les matières textiles dans notre environnement immédiat. Tandis que dans la deuxième demi-heure, on va entendre le témoignage d'artistes designers montréalais, montréalaises, qui est présentement en résidence à Bruxelles. J'en ai parlé tantôt, il s'agit de Marion Paquette. Elle sera suivie des artisans et artisanes qui sont avec nous à la table ou au téléphone. On va avoir d'ailleurs, justement, Anne-Marie Laflamme de l'Atelier B. Alors, je vous demande, tous que vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Comment intervenez-vous dans le processus? Pouvez-vous présenter votre organisme ou votre entreprise? Qui veut commencer? On va avoir Claude Maheu qui nous... Claude Maheu-Picard, excusez-moi, je ne vous ai pas nommé au complet.
Ça va. Pour répondre à votre question plus tôt, le CTTEI, c'est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. On est un centre de recherche appliquée situé à Sorel-Tracy. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des débouchés, des solutions à toutes sortes de résidus industriels ou autres. Et ça fait déjà quelques années qu'on s'intéresse aux résidus de textile. L'objectif, c'est de trouver des débouchés pour les détourner de l'enfouissement, des débouchés qui sont viables économiquement et qui vont permettre de valoriser cette ressource-là là, au lieu qu'elle soit enfouie ou envoyée à l'exportation. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, au niveau des textiles au Québec en ce moment.
Justement, on parlait de Marion Paquette tantôt. Elle a dit avoir participé à Affiche ta culture circulaire avec le comité 21. Est-ce que vous avez été impliquée là-dedans?
J'ai été impliquée dans la première édition de cette initiative-là, oui, où une artiste avait développé des panneaux acoustiques à partir de résidus de feutre, oui.
Ah! Est-ce qu'ils sont disponibles sur le marché?
Pas encore. Il faut savoir que c'est compliqué de mettre en place des solutions. Hein. Il faut créer une entreprise, etc., là, mais... Il y a des belles solutions, belles initiatives qui existent. Puis c'est une bonne idée d'intégrer des artistes dans le processus de valorisation de tout type de résidus. Là. Mm-hmm. Ça, c'est une belle initiative de Comité 21.
Bien, je vois tellement des étudiants de l'UQAM en design de l'environnement participer à des trucs comme ça. C'est tellement dans l'ADN de ce baccalauréat-là, ou même de diplôme au complet.
On rappelle que Louise a fait ce bac-là. Donc,
oui, je parle pour ma
paroisse.
Prêche
pour sa paroisse.
Exactement. Mais dans ce que vous avez dit, ça m'allume en disant que vous faites des recherches puis tout ça, puis j'ai pas pensé d'aller jusqu'à poser la question, quand est-ce que ça se réalise, ces projets-là, finalement? Est-ce que ça dépend de chacun, j'imagine?
Oui, bien, il faut trouver, hein, ça prend un porteur de projet, puis il faut qu'il y ait un promoteur qui va investir. Quand on parle de valoriser les textiles, nous, on regarde pour trouver des débouchés à une masse suffisante de vêtements. On sait qu'au Québec, on est à 110 000 tonnes à peu près par année de production de... Bien, en fait, que les Québécois se départissent de 110 000 tonnes par année de vêtements.
J'ai une donnée de Recycle Québec qu'on m'a refilée sur LinkedIn parce qu'on a vu l'annonce de l'émission. On parle de 344 000 tonnes de textiles qui ont été éliminées en 23.
Exactement, c'est énorme. Puis, si on regarde spécifiquement les vêtements, on pense à 110 000 tonnes environ. Parce que quand on parle de textile, maintenant, on inclut les chaussures, le linge de maison.
Ah bon?
C'est beaucoup plus large.
OK, oui.
Et si on regarde spécifiquement les vêtements, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. De ces 110 000 tonnes-là, il y en a à peu près 35 % qui est envoyé vers les friperies, donc tout ce qui est seconde main. Le reste, c'est envoyé à l'enfouissement, là. On parle quand même des deux tiers de nos rebuts textiles qui vont à l'enfouissement. Fait que nous, ce qu'on voudrait, c'est récupérer ces matériaux-là. Si on trouve des débouchés, on va être capable d'offrir le gisement. Donc, ça nécessite d'avoir des installations qui vont défibrer, conditionner, nettoyer, tout ça. Mais c'est ça, c'est complexe à mettre en œuvre. Ça prend du temps, il faut des partenaires qui s'investissent, qui s'impliquent.
Bien, je ne veux pas juste filer, parce qu'évidemment, votre intervention est tellement importante. Puis la collaboration, est-ce qu'elle est bonne avec tous les paliers de gouvernement? Ou...
La collaboration, elle est très bonne. En ce moment, il y a Recycle Québec là, qui offre des subventions pour qu'on puisse explorer certaines avenues. Comme nous, on a développé un panneau isolant pour la construction. On a des premiers prototypes qui ont été faits. On s'apprête à passer en deuxième phase, mais oui, il y a une belle collaboration, une belle écoute. Puis c'est un sujet qui est sensible, qui rejoint beaucoup les gens, la population. Les gens, ils veulent qu'on trouve des solutions. Fait que oui, la collaboration, je la juge bonne, mais les défis sont là parce que, bon, il y en a à la grandeur de la province, du textile. Oui.
Je vais m'adresser maintenant à Mme Gagné, Marie-Ouche Gagné. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez très investie dans toute l'économie circulaire, justement. Quelle est votre approche ou quelle est votre contribution à la chose?
Bien, je dirais que ça a été presque dans mes valeurs premières.
Oui. Parce qu'il faut le dire, Arikana, c'est une compagnie qui récupérait de la fourrure au départ.
Qui récupère encore de la fourrure. En réalité, c'est une compagnie de luxe écologique. Moi, j'ai eu la chance d'aller étudier en Italie et de faire mon projet de maîtrise là-bas. Et mon projet de maîtrise a été sur la fourrure recyclée. Donc, l'idée, c'était de récupérer une des plus belles matières qu'on a ici au Québec. Tous les Québécois avaient 2, 3, 4, 5 manteaux de fourrure dans les garde-robes. Ben, ça dure 200 ans. Donc, maintenant, on commence à comprendre.
200 ans.
Ben, un manteau de raton bien entretenu, ça dure longtemps. Donc, puis ça fait des super mitaines, des super chapeaux. Et moi, j'étais une snowboardeuse, skieuse. Je plantais des arbres l'été. Donc, de faire de la mode jolie, écologique, c'est allé spontanément quand j'avais dans la vingtaine. Et les gens, il y avait un besoin. Il y avait un besoin ici, en Europe. On s'est mis à exporter dans 19 pays. Donc, à Arikana, le fait de recycler les cachemires, les laines, les robes de mariée, les belles matières, c'est...
Ah, vous avez été jusque-là?
Oui, les foulards de soie, tout ce qui était belle matière, parce que ça vaut la peine de remettre du métier d'art ou de la dextérité sur des matières qui ont d'abord été luxueuses au début, tu sais, où il y a vraiment des... Il y a eu une belle volonté humaine de monter des belles soies. Donc, recycler des carrés de soie, c'était extraordinaire. C'est presque aussi le fun que la fourrure. La fourrure, c'est la plus belle matière à recycler, c'est certain. Et le cuir aussi, d'ailleurs. Donc j'ai fondé Arikana en 93 pour mon projet de maîtrise. C'est devenu une entreprise quand Simons en a acheté en 94. Et après ça, on est rentré dans pas loin de 300-400 points de vente dans 19 pays. Et on a fusionné avec Canadian Hat, qui est le plus vieux chapelier pour femmes au Canada.
Oui, j'ai vu les chapeaux sur Wellington.
Ouais, c'est ça. Et où là, on revalorise tout le savoir-faire de chapellerie, mais où on a recyclé du jeans, de la soie, des cravates, où on a récupéré des belles matières aussi, qui est un peu notre passion, leur donner une deuxième vie à des matières qu'ils méritent. Et j'ai travaillé aussi beaucoup sur un très, très beau projet de revalorisation de textiles en fin de vie qui va probablement prendre, voir le jour, être un scoop dans quelques mois. Donc, okay. Mais maintenant, je suis au Conseil des métiers d'art. Je suis rendue directrice oui. générale du Conseil des métiers d'art.
Félicitations.
Merci. Et je dirais que la communauté des métiers d'art, que ce soit ceux qui restaurent le patrimoine, parce que c'est très large, c'est 110 métiers, les métiers d'art. Là. C'est le verre, c'est le textile, c'est la restauration d'églises, la joaillerie.
Que j'ai acheté.
Donc, tout ce qui est métier d'art est à la base d'une économie circulaire, à la base d'une économie locale. Donc, puis les artisans font tous attention là, à justement récupérer les pierres, les métaux. Les... Mm-hmm. Donc, il n'y a rien qui se perd dans les métiers d'art. Mm-hmm. C'est pas de la grande industrialisation, c'est de la petite, des petits métiers, mais de façon très écologique, très luxueuse. Il y en a beaucoup qui travaillent dans le textile. Donc, on a toute une section des artisans récupérateurs dans nos salons. On est en train de voir comment travailler encore plus avec eux dans nos boutiques. Donc, il y a des très, très beaux projets aussi de construction d'un quartier avec les campus, avec toutes les écoles de métiers d'art. Donc, je suis très heureuse de mon nouveau rôle au Conseil des métiers d'art. C'est très porteur.
Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que, grâce à ce quartier-là, il y a une espèce de volonté de vouloir revenir à la matière première, à la matière imparfaite, la matière vivante, si on peut dire. Est-ce que c'est assez fort? Est-ce que c'est comme, je ne sais pas moi, ça se propage beaucoup, beaucoup?
Dans le monde, il y a des grands, grands bureaux de tendance, des immenses bureaux de tendance qui dictent un peu ce que les gens vont consommer. Mm-hmm. Et en ce moment, la tendance... confirmée par cette jeune femme ici. Donc,
Marianne.
Marianne. c'est vraiment qu'on dirait que l'intelligence artificielle a tellement tout poli que là, les êtres humains, on veut retourner vers des choses qui sont tactiles, qui sont mm-hmm. vraies. Donc, récupérer la très belle chemise de notre mère, récupérer le beau manteau de cuir de notre grand-père. Donc, il y a une vraie volonté. Donc, ce que Jules fait, c'est dans l'air du temps. C'est extraordinaire parce que donner une seconde vie à des belles pièces, c'est aussi commencer à s'éduquer sur c'est quoi qui est de bonne qualité puis c'est quoi qui est cheap.
Ouais.
Puis j'ai dit de façon pour rigoler, ma mère disait on n'est pas assez riche pour acheter du cheap. Parce que chez nous, elle voulait 12 enfants, on en a eu juste 4. Elle n'achetait que des choses de bonne qualité mm-hmm. pour que ça puisse passer d'un enfant à l'autre. Donc, quand c'est d'assez bonne qualité, ça passe d'une génération à l'autre, mm-hmm. ça passe d'un enfant à l'autre. Donc, finalement, si on amortit, si on est économiste puis qu'on amortit à l'utilisation, ça coûte beaucoup moins cher qu'un truc qui a brisé après deux fois.
Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'embûches dans cette volonté de vouloir faire le bien, je dirais, moi?
Il y en a de moins en moins. La grosse embûche, c'est que les gens ont été dans la mode, ont été habitués que les vêtements soient fabriqués par des esclaves. Puis qu'on appelle ça de la guenille. Fait qu'il faut arrêter d'appeler ça de la guenille, s'il vous plaît.
Oui, excusez ma chanson.
Lavoro in la moda. Okay. Lavoro in la moda. On travaille dans la mode.
C'est très bien.
Ouais.
Je dis oui.
Alors,
c'est Cathy Fuoco qui vient de dire.
Oui, c'est ça. Donc, tu sais, le Québec, ce qu'on produit, là, j'ai la chance d'aller à Barcelone demain faire la promotion des plus beaux métiers d'art du Québec ou parmi les plus beaux métiers d'art. Faut qu'on soit fiers de ce qu'on produit dans le cirque, dans la danse, dans la mode. On a des talents de fou. Donc, mm-hmm. donc, si on peut maintenant se dire que c'est vraiment de la mode qu'on fait au Québec, que ce soit de la mode récupérée, que ce soit que c'est une forme d'art, que c'est une forme de métier mm-hmm. d'art, donc pour moi, ça serait une fierté qu'on arrive là.
La ville intervient, et je m'adresse là à Natacha Beauchesne de la Ville de Montréal, qui, savez-vous qu'elle est l'architecte de cette émission-là, je pourrais dire? Parce que c'est elle qui a réussi à rejoindre tous ces gens-là. Elle était, puis c'est pas la première fois qu'elle m'aide dans tout ce qui touche à l'économie circulaire. Et puis, comment la Ville intervient dans le processus?
Montréal, je sais pas si vous le savez, mais on est une des premières grandes métropoles en Amérique du Nord à s'être dotée d'une feuille de route montréalaise en économie circulaire, d'une feuille de route en économie circulaire, et aussi, en avril dernier, d'un premier plan d'action. Alors, on est vraiment une ville qui a décidé de voir aussi le côté, pas juste le côté environnemental à l'économie circulaire, mais d'y voir le côté économique. Ce qu'on y voit, c'est vraiment, c'est le service du développement économique, d'ailleurs, qui porte la feuille de route en économie circulaire, parce qu'on pense qu'il y a des opportunités d'affaires, puis des opportunités de revoir la façon dont on produit les choses, puis dont on consomme comment on consomme. Fait que c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Notre indice de circularité à Montréal est plutôt bas. Il est à 3 %. Donc, il y a seulement...
OK. Il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui a établi un barème, si vous voulez. Et ça vient d'où, puis tout ça, pour faire comprendre aux gens là, qui nous écoutent?
Bien, à chaque année, il y a Circle Economy, qui est, je dirais, en économie circulaire, je vais les appeler le Saint Graal, qui publie chaque année l'indice de circularité mondiale. Puis là, je ne veux pas me tromper, je pense qu'il est rendu à 6,9 % me semble, autour de ça, parce que ça, dernièrement, il a changé. Donc, puis malheureusement, on est en baisse. Donc, ça dit vraiment la quantité des ressources, dans le fond, qui sont réellement réintroduites là, dans l'économie. C'est sûr que ce n'est pas tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a 93 % des ressources qui vont à l'enfouissement, parce qu'il y a beaucoup qui sont emprisonnés dans les stocks, par exemple, dans les buildings, etc., dans les immeubles. C'est des matériaux qui sont là présentement. Mais l'économie, dans le fond, est très peu circulaire. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'en faisant plusieurs études, c'est que si on doublait l'indice de circularité mondiale, à l'époque, il était un peu plus élevé, puis si on le portait à 17 % bien, juste en faisant ça, on serait capable d'atteindre nos objectifs de l'accord de Paris, nos objectifs environnementaux.
Bon. Donc, vraiment... Une pierre deux coups, là.
Une pierre deux coups. On transforme notre économie, mais aussi on atteint nos objectifs de gaz à effet de serre. Puis c'est ce qu'on souhaite à la Ville de Montréal. On a aussi l'ambition de doubler notre indice de circularité puis de le porter à 6 % d'ici 2030. Puis on va travailler là-dessus sur plusieurs, je dirais, chaînes de valeur sectorielles qui sont prioritaires, dont celle des textiles. C'est comme ça que nous, on travaille beaucoup à essayer de trouver des solutions. Claude parlait tantôt qu'il manquait d'infrastructures, par exemple, de recyclage des textiles, etc. La Ville, on veut travailler à mettre en place ces infrastructures-là. On soutient une étude de certains partenaires pour justement valider comment on pourrait faire la profitabilité d'une telle infrastructure à Montréal. Il y a 40 000, on parlait des chiffres tantôt, mais à Montréal, c'est 40 000 tonnes de textiles annuellement qui sont envoyées à l'enfouissement. Là, tout type de textiles confondus. On a, par contre, un réseau, un écosystème quand même très intéressant au niveau du réemploi, que ce soit les friperies, les OBNL. On a plus ou moins là, 50 OBNL puis une quarantaine de friperies qui font du réemploi. On a aussi, surtout, un écosystème d'entreprises comme celle qu'avait Mario, Jarkana, comme Jules avec Trolley ou d'autres, qui travaillent à trouver d'autres façons. Mais il faut aussi, après ça, là, on parle beaucoup de la mode, etc., mais il va falloir aussi s'attaquer aux postes industriels. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans les institutions, qu'est-ce qu'on trouve dans les entreprises, etc. La Ville, nous, ce qu'on veut, c'est mobiliser, fédérer cet écosystème-là pour ensemble trouver des solutions puis soutenir cette innovation-là, être un peu un catalyseur. Fait que c'est un peu comme ça qu'on travaille, je dirais, la circularité. On soutient d'ailleurs l'événement Remode dont vous parliez, qui est super intéressant. J'invite tous les auditeurs et auditrices à y faire un tour de midi à 16 heures à la Société des attractions.
À partir de demain, hein?
À la SAT. Non, c'est dimanche. Le 28 septembre à la SAT. Donc, c'est gratuit. Si ça vous tente de venir rencontrer, parce qu'il y a plusieurs, vous allez rencontrer plusieurs de ces... De ces innovateurs, de ces designers, etc., qui offrent des produits qui sont upcyclés. Vous allez pouvoir en rencontrer comme Anne-Marie Laflamme, que vous allez, tantôt avec qui vous allez parler, d'Atelier B va être là. Il va y avoir plein de conférences, de la sensibilisation. Donc, c'est vraiment un événement pour commencer à se sensibiliser à comment on pourrait faire mieux avec moins. Donc, c'est vraiment ça. Puis, une statistique, quelque chose que je trouve super intéressant, tu sais, on peut penser que le réemploi... Bon, on se dit, ah, c'est peut-être anecdotique, mais en France, le site de réemploi Vinted, qui est un site qui vend des vêtements usagés, de seconde main, pardon, je ne devrais pas dire ça, de seconde main, bien, a dépassé en termes de volume de vente Amazon. Donc, ça démontre vraiment comment c'est rendu maintenant l'importance de du réemploi puis de la seconde main, quelle importance elle prend dans les nouvelles générations.
Wow! Il nous reste quelques minutes pour nous adresser pour le moment, parce que tout le monde va avoir le droit à la parole. J'aimerais demander à Jeannie-Claude Vien, qu'est-ce que concertation? Parce que là, dans le premier volet, c'était un peu qui sont tous les intervenants.
Bien, avec Concertation Montréal, nous, on est un OBNL qui développe la région par la concertation. Donc, on veut dire de rassembler des gens qui ont des fois un besoin ou un enjeu partagé, mais qui, de façon isolée, c'est beaucoup plus difficile à attaquer.
Je suis tellement avec vous là-dessus.
Oui, vraiment. Alors, le mot collaboration, je sens qu'il va revenir souvent dans cette discussion-là, mm-hmm. mais nous, c'est vraiment ça qu'on crée à travers les regroupements. Donc, nous, on a débuté en 2021 une communauté de pratique textile et habillement pour justement adresser la transition écologique de ce secteur-là. Ce qui doit être fait, on a rassemblé, que ce soit des designers, des enseignants, des OBNL, des gens qui sensibilisent déjà le public. On les a rassemblés ensemble et on a développé des ateliers par et pour l'industrie de la mode pour que l'industrie puisse continuer de toujours rester formée sur qu'est-ce qui se passe en termes de transition écologique, puis quelle justement, nouvelles pratiques, est-ce qu'on peut instaurer dans notre production? Mais on s'est vite rendu compte qu'on aura beau mettre le meilleur produit en marché, si le public ne comprend pas pourquoi acheter ce produit-là, si on continue de surconsommer et de mal utiliser les vêtements, on n'aura pas réglé l'enjeu environnemental du secteur.
Vous vous retrouvez devant le fait que les gens se plaignent qu'ils manquent de sous à cause de l'augmentation des logements, du prix des logements, puis tout ça. À vouloir, il va falloir influencer les gens pour leur dire « Vous allez sauver des sous si vous nous suivez là-dedans, dans ce processus-là. » Est-ce qu'il y a des réflexions faites là-dessus?
Et certainement, il y a 1 million de chemins de... Nous, on propose un peu, finalement, le consommer moins, consommer mieux, consommer moins.
Okay.
Donc, avec le consommer moins... on peut avoir des belles économies faites dans notre portefeuille. Là. Donc, ce qui est avantageux pour nous est aussi avantageux pour l'environnement et souvent pour l'économie locale aussi.
Mm-hmm. On va mettre tous les liens sur notre page, toutes les pages qu'on peut avoir sur de Trait d'Union, parce que je pense que c'est important que les gens savent où aller chercher cette information-là. Est-ce que vous allez être à la SAT dimanche?
Bien, moi, j'ai la chance d'intervenir, en effet, sur un des panels dimanche. Mais nous-mêmes, Concertation Montréal, on prévoit, on organise aussi ce même type de projet de sensibilisation citoyenne où est-ce qu'on utilise justement notre regroupement de designers et de gens dans l'industrie de la mode pour offrir une expérience aux citoyens où est-ce qu'ils peuvent venir expérimenter, développer leurs connaissances, mais vraiment développer les capacités. On offre à Laval, au Centre Laval, du 20 au 26 octobre, la boutique éphémère Magazine Ta Solution. On a une super programmation d'ateliers gratuits qui sont offerts au grand public.
Le métro, est-ce qu'il se rend là?
Montmorency, un petit 10 minutes de marche.
Ah, ensuite. C'est bon pour la santé. Votre montre, elle va être contente.
Oui. Puis quand vous parlez, c'est un projet collaboratif. Là, on a même justement Trolley au bout de la table qui se joint à nous, qui offre des ateliers dans le cadre de cette semaine-là.
On va lui laisser la parole tout à l'heure parce que là, réalisez-vous qu'il y a déjà une demi-heure de passé. C'est fou, comme je l'avais dit, ça passe très, très vite. Alors, au retour, merci beaucoup, mais tu restes avec nous?
Certainement.
Yes! On va dire au revoir à Mariouche Gagné. On est très content de l'avoir eue avec nous. Ça a été, écoutez, on a demandé à la terre entière et elle est venue. Alors, merci infiniment pour votre contribution à l'émission.
C'est passionnant, j'aurais aimé rester.
Ah, ben écoute, elle s'en va à Barcelone. Hein? Pauvre elle!
C'est pas facile.
Je suis sûre que la Méditerranée est encore chaude à ce temps-ci là-bas. Ah, en tout cas, bref, chanceuse.
Moi, je me baigne même dans des lacs frettes. Fait que...
Ah, ben elle serait heureuse dans ma piscine. Vous savez que ça prend un wetsuit dans ma piscine. En tout cas. Alors, je vous laisse pour la pause. Au retour, on va entendre l'entrevue enregistrée avec Marion Paquette, qui est à Bruxelles présentement, qui n'est pas vilain comme endroit non plus. Et puis, on va avoir rejoint Mme Anne-Marie Laflamme, qui sera avec nous pour discuter. Alors, merci beaucoup, puis à tout à l'heure!
Bon. Vous aimez l'actualité? Des nouvelles vraies, des animateurs authentiques, des entrevues d'artistes captivantes et de la bonne musique? Recherchez l'application de l'ARCQ, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec qui regroupe tout ça en un seul endroit. L'appli qui donne accès aux 37 stations de radio communautaires membres de l'ARC ainsi qu'à leur fil de nouvelles couvrant tout le Québec. Dans un paysage médiatique en pleine mutation où la multiplication des sources d'informations ne garantit pas toujours leur qualité, nos stations jouent un rôle crucial. Téléchargez l'appli ARCQ sur Apple et Google Play.
Décadence. 3 heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence.
Les vendredis soirs, dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end.
Votre week-end. CIBL, au cœur de la décadence.
Salut, c'est Isabelle. La musique électronique instrumentale, les chansons franco-électro, oh, j'adore cette ambiance musicale. Puis pour vous la partager, je vous propose Electrosphère, votre dose de musique électro hebdomadaire. Joignez-vous à moi pour une heure de voyage musical atmosphérique les vendredis à 23h et en rediffusion les samedis à 23h sur CIBL 101.5. À plus!
Le quatrième mur.
Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
Le quatrième mur.
Bonjour, mon nom est Marion Paquette. Je suis artiste et designer.
Bonjour, Marion. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que c'est la matière qui a été l'inspiration première?
Est-ce que c'est la volonté à contribuer à l'effort environnemental qui a alimenté ta créativité?
Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a toujours un lien avec les deux. C'est un peu toujours interrelié, ce genre d'approche-là, parce que évidemment que la matière a toujours une manière de nous inspirer, de nous diriger, disons, dans l'approche qu'on va adopter pour la traiter puis la manipuler. Mais autrement, c'est sûr qu'il y a toujours cette vocation-là aussi écologique, essayer d'adopter des approches en or qui vraiment tente de récupérer des matières au lieu d'en générer des nouvelles.
Est-ce que c'est difficile de s'en tenir qu'au recyclage? Est-ce que c'est facile de se procurer tous les éléments pour poursuivre et achever une œuvre?
Oui, c'est une bonne question, mais souvent, c'est sûr que c'est difficile de faire un truc 100% surcyclé, là. Évidemment que moi, mon approche, c'est d'essayer le plus possible de travailler avec des matériaux que je récupère. Mais après, d'un point de vue technique, des fois, on doit sortir un peu de cet esprit de récup et aller trouver d'autres éléments là, d'assemblage ou des trucs comme de la colle ou des matériaux qui vont permettre, disons, la construction d'un objet ou d'une œuvre. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile à 100% s'y tenir, mais c'est un beau défi de se lancer puis après de voir comment tout ça peut se placer.
Est-ce que c'est réellement moins coûteux de travailler avec, est-ce que c'est plus économique de travailler avec des éléments déjà existants?
Ben c'est sûr que des fois, oui, mais en fait, il y a des fois des circonstances où tu es amené à te procurer des matériaux avec des organisations, des organismes qui, eux, font de la récupération et font de la revente, qui essaient de donner une seconde vie à certains matériaux de construction, etc. Donc là, dans ces cas de figure-là, c'est sûr que tu es amené à débourser, mais clairement moins cher que dans un contexte où les matériaux sont neufs. Donc, moi, personnellement, en tant qu'artiste qui travaille avec du textile, c'est sûr que des textiles industriels comme des textiles de voile, qui sont des textiles très forts, très robustes, épais, ça me coûterait beaucoup plus cher d'en faire l'acquisition à l'état neuf que d'en faire l'acquisition en seconde main. Après, en seconde main, il y a tout un traitement que je dois opérer, puis il y a certaines parties que je ne peux pas récupérer ou qui doivent être nettoyées, etc. Tu sais, il y a tout un effort aussi pour revitaliser cette matière-là. Mais c'est sûr que moi, je le constate que ça me permet peut-être d'accéder à des matériaux qui autrement me coûterait beaucoup plus cher, puis qui me permettent peut-être d'avoir ce privilège-là de jouer avec ces matières-là, puis d'explorer. En fait, je pense que récupérer les matériaux le plus possible dans une pratique créative, ben c'est un peu, ben pour moi c'est la base, puis c'est quelque chose pour lequel j'essaie de me formater, de me conformer le plus possible. Ben je pense que de le faire avec un souci d'écologie, c'est aussi des belles à faire circuler.
Je te remercie énormément. Bye bye. Bonne chance. À la prochaine,
merci,
peut-être.
À bientôt. Merci.
Bye.
Et oui, c'était Marion Paquette qui, comme je vous le disais, est à Bruxelles. Et puis, comment est-ce que j'ai eu vent de son travail? Bien, je reçois les infolettes de Altitude Nord, une compagnie qui offre des produits de sport. Et puis, je vois-tu pas son travail, ses sacs faits à partir de voile. Et puis, il y a une espèce d'article sur elle. Puis, je suis allée sur sa page et ainsi de suite. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis, je vais poser la même question à tous les artisans et artisanes qui sont ici. Mais je vais en ajouter une autre surprise par la suite. Alors, maintenant, je m'adresse à un artisan. On a au bout du fil, il ne faut pas l'oublier, on a avec nous, attendez, Anne-Marie Laflamme de l'Atelier B qui va écouter cette conversation-là. Mais on va venir à vous, Madame Laflamme, tout de suite après la réponse de M. Trollet. M. Trollet, Jules Trollet, qu'est-ce que c'est que ça, Trollet?
Ben c'est tout nouveau et on est une jeune entreprise basée à Montréal dans la cité de la mode. Et on s'attaque à un problème dont on parlait assez peu, c'est qu'il n'y a que 4% des souliers qui trouvent une seconde vie. Et nous, on s'est dit, ben, on va rendre ces souliers dont personne ne veut enviables. Et donc, on les remet à neuf, on les désinfecte.
Mais le mot enviable est important ici.
Exactement.
Ça ajoute une plus-value.
Oui, absolument. C'est quelque chose qui rend fier aussi au bout du compte parce que on fait un bon geste écologique en achetant un soulier de seconde main qui est remis à neuf. Donc, il est complètement désinfecté, les talons sont réparés, et il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à du neuf. Et en plus de ça, il est à environ 50% de rabais par rapport à du neuf. Donc, ça rend fier d'avoir fait une bonne affaire également.
Oui. J'ai pas pu poser la question à Marion. Mais est-ce que vous avez trouvé des moyens de réassembler pour que ce ne soit pas trop coûteux et trop polluant? Ça m'inquiète beaucoup parce que là, on va peut-être prendre des colles, des produits pour faire adhérer les choses entre elles. Est-ce que ça ne peut pas devenir un petit peu polluant? Est-ce que c'est plus coûteux? Est-ce que ça l'est moins?
Alors, dans toutes les étapes en fait, de notre processus de remise à neuf, on en a 12. Effectivement, il y a des fois, pour les souliers un petit peu plus haut de gamme, où on doit coller, mais la majorité du temps, c'est beaucoup de nettoyage, de désinfection avec vraiment des produits naturels.
OK, c'est bon.
Et au niveau des cols, moi, en tant que cordonnier, ce que je préfère, c'est travailler avec des souliers un petit peu plus haut de gamme en cuir, même moyen de gamme, haut de gamme, mais maintenant, c'est plus rare. Et ça, on appelle ça des constructions qui sont cousues. Et moi, c'est ce que je préfère faire, c'est des souliers que tu peux réparer un petit peu à l'infini. Et dans ce cas-là, j'encourage tout le monde à essayer de les acheter.
Oui, et puis on les trouve où?
Ben en ce moment, c'était sur notre site web, trollet.ca. Et ce soir...
T-R-O-L-E-T.
Exactement, T-R-O-L-E-T.ca. Et ce soir, on ouvre notre atelier boutique.
C'est ce soir, mon Dieu, quel aton!
Eh oui, j'étais à Costco juste avant pour acheter du fromage pour la soirée. oui, c'est ça, ce soir, pour pouvoir offrir un moment d'essayage pour les personnes qui ne veulent pas acheter les souliers en ligne. Je comprends complètement. C'est souvent important quand on ne connaît pas la marque ou le modèle de les essayer. Mm-hmm. On en est vraiment à nos débuts, donc on y va petit à petit. Si ça se passe bien, l'année prochaine, on ouvrira vraiment une vraie boutique Trollet quelque part en centre-ville.
Eh bien là, je vais offrir l'opportunité à Mme Laflamme de nous parler parce que là, on a parlé justement comment, d'adhérence et de jonction. Puis quand on parle de béton, ben c'est ça, c'est de l'agglomération. C'est... Mais qu'est-ce que c'est qu'atelier béton? Moi, je le sais, ça fait des années, mais les gens au bout du fil ou au bout de la radio ou au bout de leur auto ne le savent pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'atelier B, Anne-Marie?
Ben, en fait, Atelier B, c'est une marque que Catherine Métivier puis moi, on a lancée il y a déjà plus de 16 ans.
Eh oui.
Donc, c'est une marque de vêtements qui est fabriquée à Montréal. Puis, on utilise des fibres naturelles. Puis, à l'essence du projet, il y a toujours eu de réfléchir sur la façon, le système dans lequel les vêtements sont faits, puis l'impact environnemental de cette industrie-là qui, on le sait, est plutôt désastreuse. Mm-hmm. Donc, c'est une espèce de laboratoire de recherche aussi, Atelier B. Oui, on fait des vêtements, mais on fait beaucoup de tests et d'expériences pour voir comment on peut les faire de façon différente.
Et puis, vous avez toujours le souci de... Parce que la revitalisation, moi, je me demande tout le temps quels sont les coûts, des fois. Je peux me poser la question, avez-vous trouvé des... Est-ce que vous avez inventé des choses? Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour faire votre travail?
Bien, on a mis plusieurs choses en place depuis le début du projet. Je peux en nommer quelques-uns. Là, ça fait, on est obsédé par la réutilisation de nos retailles depuis les tout débuts. On avait lancé une ligne de vêtements pour enfants en 2016 pour réutiliser nos balances de stock, là, ce qu'on appelle souvent dead stock, ou les plus grandes retailles aussi. On avait fait des collaborations pour faire des petites pluches pour enfants aussi avec les petites retailles. On a un programme de collecte de vêtements en fin de vie, comme on vend nos produits depuis une décennie et demie, ben ça arrive que les gens ont des vêtements qu'ils portent plus dans leur garde-robe pour différentes raisons. Donc nous, on les reprend, peu importe leur état. Donc soit qu'on les répare, qu'on les nettoie, puis qu'on les remet en circulation, ou sinon, on les embarque dans notre programme de recyclage, qui est un de nos plus gros projets depuis les 5 dernières années. On voyait nous des sacs de retailles textiles. Tu sais, nos textiles, il y en a qui viennent de Montréal, mais la majorité viennent du Japon ou d'Europe du Nord. Donc, ils ont demandé beaucoup de ressources. Ils ont pollué beaucoup pour se rendre jusqu'à nous, des ressources autant humaines qu'environnementales. Puis, on voyait toutes les petites retailles avec lesquelles elles étaient trop petites d'un point de vue textile pour pouvoir être cousues. Mais comme on produit quand même une quantité de vêtements, bon, pas énorme, on est une micro-entreprise, mais bon, on fabrique des vêtements à journée longue. Mm-hmm. Ça fait quand même des déchets textiles, des rebuts. On les voyait dans des sacs se faire envoyer à l'enfouissement. Puis on se disait, cette matière-là, si on la voit sous une autre forme que du textile, elle est colorée, elle est belle, elle est neuve, c'est des fibres naturelles. Je peux pas croire qu'il y a pas quelque chose à faire avec ça. Puis c'est là qu'on s'est mis à la voir comme comme une matière juste de la fibre et non plus comme du textile. Puis là, notre projet de recyclage est tranquillement né avec les tests et les différentes collaborations de cette obsession-là qu'on avait de ne pas les envoyer à l'enfouissement.
Donc, à la question, est-ce que c'est la matière qui vous a inspiré ou la volonté de contribuer à l'effort environnemental? C'est les deux, là.
Bien, Atelier B, la naissance du projet, c'est notre envie de changer la façon dont les vêtements sont faits. Donc, l'essence même du projet, c'est l'effort environnemental. Mais ensuite, ce projet de recyclage-là, c'est la matière à laquelle on est très attaché, qu'on aime beaucoup, qui est notre inspiration principale, qu'on ne voulait pas gaspiller. Donc oui, ça s'additionne.
Là, quand j'ai jasé avec Marion, puis on parlait d'assemblage, puis on n'en a pas... Bon, Jules ici, Jules Trollet. Moi, je tutoie et je suis comme ça. Bon. Alors, on parle d'assemblage, puis je pense tout le temps à ce que les Autochtones ont réussi à faire à l'époque, puis tout ça. Puis je me demande si chacun d'entre vous, les artistes, vous allez faites vos recherches sur ce qui se faisait de manière ancestrale. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites?
Je ne sais pas si la question s'adresse à moi, mais ça me fait plaisir d'y
répondre. Ben oui, répondez, puis c'est sûr que Jules va répondre aussi.
il y a un des points de départ de ce projet-là, en fait, c'est la technique ancestrale de fabrication de papier à partir de rebuts textiles.
Oui, c'est ça.
Qui est vieille de plusieurs millénaires. C'était pas quelque chose que les peuples autochtones d'Amérique du Nord faisaient parce que leur papier ici le faisaient surtout avec des écorces d'arbre.
Ouais, c'est ça
exactement, des matières plus qui venaient directement souvent trouvées sur le sol, qui venaient directement des arbres ou des plantes. Parce qu'il y avait pas, il y a pas beaucoup de fibres textiles ici. C'est pas, une, on n'est pas, il y a pas beaucoup de coton. Il y a un peu de lin, mais bon, c'était pas quelque chose qu'il y avait en grande quantité. Donc, c'est surtout en Asie que le papier fait avec la matière textile est né. Il y a plusieurs milliers d'années. Puis c'est devenu avec le temps le papier de plus grande qualité. Puis nous, c'est ce qui nous a inspiré une partie du processus, en fait, de vraiment transformer la matière en pulpe, puis de retravailler à partir de la pulpe comme un nouveau médium et oublier un peu le côté textile parce que nos retailles étaient rendues tellement petites vu qu'on utilisait déjà les morceaux qu'il fallait la transformer. Fait que oui, cette technique-là, elle est très ancestrale. Ça a été le point de départ. La différence, c'est que nous, on fait des objets 3D, trois dimensions. On travaille même sur des petits meubles en ce moment. Donc, c'est plus sous forme de feuilles, c'est sous forme d'objets moulés ou d'objets sculptés ou d'objets façonnés.
Oui. Jules, je t'ai vu réagir à la question.
Oui, oui, mais il y a de nombreuses, il y a de nombreux points, en fait, sur la remise à neuf où je vais prendre en compte un savoir-faire qui est ancestral. Là, je pensais à deux choses en particulier. Il y en a un, c'était hier en plus, c'est drôle. C'était sur les points de couture, des mocassins par exemple. C'est ça, moi j'apprenais à le faire à la main. Et hier, je suis tombé par hasard sur une machine qui le faisait. Et là, le point sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est surtout la manière d'entretenir et de faire durer le cuir. Comment choisir un cuir pour quel genre de soulier, quelle utilisation et comment le faire durer par la suite. Quelle graisse animale, en fait, mettre sur ce cuir pour le protéger des températures extrêmes de l'hiver canadien. On n'a plus de... On n'a pas tellement de graisse de castor ou quoi, mais les graisses animales qui étaient utilisées à l'époque sont des choses qu'on utilise toujours, mais qui sont de plus en plus compliquées à trouver maintenant, en fait.
Oui, c'est parce qu'ils utilisaient comme l'animal au complet. Alors, ça va être... les tendons pour quelque chose, la peau pour autre chose, la fourrure pour autre chose, et puis sa graisse également. Il y a ailleurs dans le monde aussi, parce que moi, je suis fascinée. Des fois, je regarde des vidéos des gens qui font des choses avec le bambou qui est filoche et tous des trucs comme ça, que ça devient un fil fin, puis ça devient un textile également. Donc, on peut aller loin et regarder ce qui se faisait auparavant. Puis si je me fie à ce que Mariouche disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle disait donc tout à l'heure? Elle disait que... J'ai un blanc. Mais je vous vois réagir encore. Je vous laisse aller pendant que je réfléchis, là.
Non, mais moi, globalement, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre l'intégralité de l'histoire de tous les souliers et de voir comment je peux essayer de les remettre à neuf le plus rapidement possible. Donc, c'est vrai, le savoir-faire européen... Enfin, bon, je ne vais pas commencer à faire un cours d'histoire de la chaussure, mais on peut aller vraiment loin, effectivement, sur la spécificité de chaque pays et comment essayer de l'industrialiser par la suite. Ça, c'est une autre affaire, par contre.
Oui, c'est ça.
Ça m'amène à rebondir là-dessus.
Absolument.
Parce que nous, on travaille beaucoup au niveau de l'éco-conception aussi pour que nos produits soient plus faciles à réparer puis à entretenir. Quand on pense à la fin du cycle de vie d'un produit au moment où on le conçoit, ben il y a des solutions plus évidentes pour pouvoir réparer, modifier les vêtements. Puis ça fait une différence aussi. Je suis certaine qu'il y a des souliers de mauvaise qualité ou mal conçus sont pas pensés pour être réparés, alors que des produits de qualité, souvent, c'est la durabilité, puis la longévité, puis justement la réflexion, comment on va prolonger sa vie en le réparant, qui est prise en considération dès l'étape de la table à dessin.
Oui, bien c'est ça. Là, on arrive dans un petit volet politique, je dirais, parce que si on met l'accent sur l'économie circulaire, est-ce que ça nuit à l'économie traditionnelle capitaliste, tu sais, qui cherche à avoir d'autres... Comment?
J'ai dit, est-ce qu'on s'en fout que ça nuit?
C'est
important. L'important, il y a d'autres choses de bien plus importantes, je pense. En tout cas,
je pense aux décideurs, là, comprenez-vous. C'est que ils mettent... Quand on investit dans... Bon, là, il faut que je me censure. Quand on investit dans des compagnies pour lesquelles on a des intérêts, on dirait que cette économie-là, qui pour moi est plus intelligente, est mise de côté. On met pas l'accent là où ça doit être mis et j'avoue que ça me désole beaucoup. Là.
Moi, je pense qu'on crée des emplois de qualité ici au lieu d'utiliser la main-d'œuvre à bas prix qu'on compare souvent à l'esclavage moderne ailleurs. Mmh. On crée des déchets ici au lieu d'externaliser nos nuisances. Donc, je pense que c'est bon pour l'environnement local, c'est bon pour la communauté. Ça nous permet d'avoir conscience de l'impact de nos produits. Se fermer les yeux en envoyant tout ce qui est salissant puis tout ce qui est nocif à l'étranger sur le long terme, c'est pas une solution qui est viable. Offrir des vêtements de qualité au lieu d'offrir des vêtements qui se ramassent aux poubelles après une ou deux fois qu'on les porte, je pense que il y a personne qui va dire ah mais l'économie, tu sais, je veux dire c'est pas une bonne raison là. Au contraire, achetons moins, achetons mieux, puis achetons des choses qui participent à l'économie d'ici.
Ouais. Bon, je vais laisser j'aimerais intervenir, mais il y a aussi Natacha Beauchesne qui aimerait intervenir là-dessus.
Oui, mais on pourrait penser...
Fâchez-vous avec moi.
Je ne vais pas me fâcher. Moi, je vais plutôt dire que pourquoi c'est le développement économique. C'est justement parce qu'on y voit une belle valeur économique. C'est que la même ressource, dans le fond, elle va être vendue plusieurs fois. Donc, on crée de la valeur, mais au voilà. contraire. Alors, ça crée beaucoup d'emplois locaux. Vous parliez d'emplois locaux. Je parlais avec Ecoséno dernièrement. Ecoséno, c'est une entreprise qui aide des productions théâtrales, artistiques, etc., à réemployer des matériaux dans le cadre de leur production. Mm-hmm. Mais eux, ce qu'ils me disaient, c'est qu'avec plusieurs indicateurs là, qu'ils ont réalisés, bien, c'est que le coût d'une production avec, mettons, 50 % de réemploi, c'est le même qu'une coût avec juste du neuf. Par contre, ce qu'ils ont réalisé, c'est que ça va coûter beaucoup moins en matériaux, mais tu vas plus investir dans les ressources humaines. Ça va être un peu plus cher en ressources humaines. Donc, ça va venir équivalent. Mm-hmm. Mais on va plus investir dans des emplois, comme disait Anne-Marie, locaux, des emplois de qualité, l'expertise locale. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que l'économie circulaire, c'est plutôt une belle opportunité de remettre dans le cycle économique, les mêmes ressources. Parce qu'il ne faut plus jamais dire déchets. Parce que on n'a pas de déchets, on a des ressources. Et c'est ce qu'il faut, c'est qu'il faut les réinjecter.
Changer le vocabulaire.
Il faut changer le vocabulaire, effectivement.
Oui. Mais il va falloir convaincre les gens. Parce que nous, on est entre convertis, je dirais. Tandis que quand je regarde les réseaux sociaux, c'est pas que ça que je vois. Je vois monsieur et madame tout le monde qui achète de Shane et d'autres endroits où on sait que ce sont des vêtements. Marianne, d'après le cours que tu as suivi, tu nous expliquais combien les vêtements qui sont là sont éphémères. On en a parlé tantôt. Comment mm-hmm. on appelle ça? L'obsolescence programmée, mm-hmm. elle n'est pas juste pour les réfrigérateurs, elle mm-hmm. est pour les vêtements également, pour le textile.
Ouais. Puis c'est une obsolescence souvent qui est esthétique, d'abord et avant tout. Le gros problème avec la mode, là, c'est que c'est une obsolescence finalement qui est émotive, qui est émotionnelle et plus que technique. Oui, il y a des vêtements de plus en plus cheap, mais souvent la tendance est plus courte que le matériel.
OK, la tendance à un style, une mode?
Oui, la tendance, c'est-à-dire un style de vêtement particulier qui va là, avoir un boom très rapide. Les réseaux sociaux participent beaucoup à ça, là, à la création de tendances éphémères, là, de vedettes, d'influenceurs qui vont porter un truc. Puis là, tout d'un coup, c'est sur Shein, comme tu disais, ou mm-hmm. Temu, puis c'est super accessible. Tu peux l'avoir en 5 jours, puis...
que du neuf.
Mais oui, puis c'est un produit qui finalement va être désuet parce que la tendance va passer. Puis c'est pas nécessairement que le vêtement va même plus être portable ou va plus se tenir. Shein, oui, quand même, là, mais tu sais, H&M et Zara et compagnie, Zara moins, mais H&M et compagnie, c'est du fast fashion, c'est des vêtements, oui, qui durent pas longtemps, mais c'est surtout des tendances que les gens finissent par se tanner. Puis les gens, des fois, ils savent même pas pourquoi, puis ils sont même pas conscients de ça. Ils sont juste comme, je me tanne tout le temps de mes vêtements, mais je sais pas pourquoi, mais je finis tout le temps par me tanner. Puis là, il faut tout le temps que j'en rachète. Même des gens qui ont l'intention de vouloir garder leurs vêtements longtemps, finalement, ils comprennent pas pourquoi ils se tannent de leurs vêtements. Mais
là, c'est une étude psychologique qu'il faut faire. Là?
Ben oui, sociologique, c'est très émotif. Puis la mode, pourquoi c'est autant émotif, c'est que ça touche notre corps, tu sais. Mm-hmm. C'est directement lié à notre identité parce que c'est sur nous. Fait que ben c'est ça. Fait que c'est sûr que si la tendance, puis si le vêtement en soi passe de mode, peu importe s'il est bien conçu, les gens voudront plus le porter. Puis ça, c'est vraiment il y a quelque chose de social, quelque chose de culturel d'accepter de porter des vêtements qui, pendant longtemps, mais il faut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qu'on aime dans le long terme, tu sais, c'est quoi notre style, essayer de trouver quelque chose de personnel.
Qui t'identifie, dans lequel tu es confortable.
Exactement, puis d'essayer d'améliorer ce rapport-là pour être moins dans le renouvellement constant de la garde-robe et plus dans une espèce de garde-robe dans le long terme, une garde-robe qui dure, une garde-robe qu'on aime longtemps. Fait qu'il faut comme redéfinir notre rapport au style, aux tendances, puis ça passe beaucoup par le genre de boutique où on magasine nos vêtements. Si on magasine des vêtements dans des boutiques où, tu sais, ils n'ont pas le choix de faire des tendances qui sont finalement obsolètes rapidement parce que c'est ce qui amène des ventes. C'est des compagnies qui n'ont pas le choix de vendre toujours plus. C'est comme ça qu'ils font du profit. Si tu vends des vêtements qui sont bons pendant très longtemps, des compagnies de luxe ou quoi que ce soit, finalement, ils vont moins vendre en moins grande quantité. Fait que ouais. C'est des compagnies qui ont des boards, des CEO, puis tout ça, puis qui ont des actionnaires. Les actionnaires demandent d'avoir l'action augmentée. Fait que si on veut que l'action augmente, on n'a pas le choix de vendre plus, puis plus, puis plus. Puis comment s'assurer des ventes constamment, saison après saison, même quand les gens n'ont pas d'argent pour manger, ben c'est finalement de changer tout le temps les tendances puis de rendre obsolète tout le temps plus rapidement, le plus rapidement possible, les dernières tendances qui sont sorties.
Puis il y en a, j'ai vu quelque part qu'il y en a qui vont de manière subtile. Bon, Uniqlo font des vêtements qui sont d'un peu meilleure qualité. Par contre, ils ont trouvé un autre truc pour vendre, c'est qu'ils créent des collections qui durent. Alors, tu rentres chez Uniqlo, puis là, tu vois le manteau que tu as, les pantalons que tu as, le T-shirt que tu as, puis là, whoop, tu vois pas une petite veste qui irait tellement bien. Ils ont pensé que ça allait bien que le T-shirt que tu avais déjà acheté, le veston, le pantalon. Fait qu'ils créent la volonté de pouvoir upgrader, pour parler en français d'Angleterre, ta garde-robe que tu as déjà.
Ben, c'est
subtil, là.
C'est cette idée qu'on n'en aura jamais assez, finalement.
Oui, Anne-Marie.
Nos clientes, c'est de trouver comment repenser comment ils portent les vêtements qu'ils ont déjà. Mm-hmm. Souvent, c'est les agencements des couleurs qu'on scanne rapidement ou la façon qu'on a fait nos superpositions. Mais les mêmes vêtements, c'est des vêtements de qualité puis qui sont assez sobres. On peut les adapter à plein de styles puis à plein de tendances sans avoir besoin d'acheter si ont été bien pensés pour ça. Puis on voit, nous, nos clients porter des vêtements qui ont acheté il y a 10, 8, 7 ans puis qui les portent avec des nouvelles façons, des manières différentes, des tendances nouvelles puis que ça fonctionne.
Mais oui, les adaptent.
Prendre en compte. Mmh. Exact. Sans avoir besoin d'acheter une nouvelle pièce.
Ah, c'est important. Peut-être qu'il faudrait avoir des cours. Mais quand j'étais... Moi, je suis une vieille, hein? Et puis quand j'étais jeune, on avait des cours de sciences familiales et trucs comme ça. Ça devrait peut-être être réinstauré, ça, des cours comme ceux-là. Il reste 3 secondes et quart. Anne-Marie veut... Jeannie-Claude, pardon.
Bien là, je trouve ça tellement intéressant parce qu'on a parlé des jeunes, on parle de l'ultra-fast fashion, on parle d'éducation, hein. Tu sais, au final, nous, ce qu'on est en train d'adresser, c'est un sujet de surconsommation. Et ça, c'est systémique, c'est culturel. Et les jeunes sont super importants à embarquer dans la conversation parce que c'est aussi des grands acheteurs de vêtements. Hein? C'est ce qu'ils font avec leur argent de poche. Et on a développé du contenu, justement, à ramener dans les écoles, là, comme tu nommais, là, pour pouvoir adresser cet enjeu-là très important avec ce public-là, à vrai dire.
Hey, c'est rassurant. Hey, on ratisse large, mon Dieu! Mais c'est tellement important. Écoutez, on a déjà une autre demi-heure de passer. On va revenir tout de suite après la pause. Et puis là, on va poser des questions plus générales à tout le monde. Comment est-ce qu'on consomme? On est bien bon là, de parler de nos organismes. Mais nous, hein, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Alors, on revient tout de suite après la pause à Trait d'Union sur CIBL 101,5.
Oh, oh! Qu'est-ce que je vois là? C'est le grenier pop!
le vendredi de 16h30 à 17h, ouvre la porte du week-end avec moi. Avec Fred à lanterne, tu as 30 minutes pour replonger dans la culture pop et ouvrir de vieilles boîtes remplies de mille et un souvenirs.
Yeah! Yeah, baby! Yeah!
Plongez dans l'univers du rap québécois chaque lundi de 17h à 19h sur CIBL 101,5 FM avec On s'en rap. Découvrez les talents francophones qui façonnent la scène musicale actuelle. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. On s'en rap, c'est votre émission.
Chaque vendredi de 15h30 à 16h30 sur CIBL, le 101.5, Barbara ouvre un espace de dialogue. Une heure pour parler à cœur ouvert. Des invités inspirants, des sujets de société, de santé, de culture et bien plus encore. Barbara reçoit des voix, des vécus, des regards qui nous éclairent. Barbara reçoit l'émission où chaque invité apporte un plus.
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. J'anime Fleur Bleue, l'émission qui vous fait voyager à travers les fleurons de la chanson québécoise des années 70. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis 15h à CIBL 101.5 FM Montréal.
Bonjour ou bonsoir, mon nom est votre animateur Mathieu Ferland et il vous fait plaisir d'écouter l'émission Un peu sketch, les vendredis 20h. Un peu sketch, l'émission de musique et d'humour Un peu sketch.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, c'est parce que les gens se sentent impliqués, là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Cathy, ta chronique va bien partir la discussion de la troisième demi-heure.
Oh yeah! OK, fait que c'est moi qui lance ça. Ben OK. Oui. Là, je ne parlerai pas avant, là, je vais partir tout de suite parce que sinon, moi aussi, je m'emporte, hein, ça ne sera pas long. Mais quand on parle de recyclage, on pense souvent à une invention moderne. Hein. Souvent, on pense que c'est tout nouveau. Ben non, ce n'est pas nouveau. Parce que je regarde aujourd'hui les grandes campagnes de sensibilisation au règlement, tu sais, qu'on impose aux gens, le recyclage, le tri sélectif, le compost, tu sais, tout ça, ça devient maintenant une forme de vie, une forme de vie moderne. Mais détrompez-vous. Non, il n'y a rien de moderne là-dedans. Parce qu'en réalité, OK?
Oui, là, Cathy.
Nos Italiens du Québec, là, hein? La diaspora italienne, là, qu'on vient de Saint-Léonard, Villeray ou Rivière-des-Prairies, les Italiens d'América, c'est parce qu'on est obligé de dire América, parce qu'il n'y a pas un Italien qui est capable de placer Québec sur une map, là, OK? Fait que les Italiens de l'América faisaient du recyclage avant même que le mot existe, OK? Parce que chez eux, c'était instinctif, naturel. Ça remonte déjà de loin, déjà à l'époque de la grande Rome antique immigration des premiers Italiens qui ont débarqué ici, en Amérique. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors, ce qu'ils avaient, que ce soit un clou, un bout de planche, un bouton, tout avait une deuxième vie. Bon, je dis deux, mais souvent, c'était 3, 4, 5 vies. Dès qu'on trouvait un petit quelque chose, c'est sûr qu'on le gardait. Tu cassais une patte de chaise, pas grave, on va la garder pour réparer celle qui cassera l'année prochaine, peut-être. On finissait toujours par trouver quelque chose, une autre fonction à n'importe quoi, une bouteille de vin, c'est pas grave, ça devenait une carafe d'eau. Rien ne se perdait, tout se transformait. Puis cette habitude-là, bien, est restée. Prenons, mettons, le métal. Une boîte de tomates vides, bien, ça devient un pot de basilic. Un peu plus grosse, parfait, ça va faire pour les poivrons. Une vieille canne d'huile, ça fait un arrosoir extraordinaire pour le jardin. Et ça continue toujours comme ça. Que tu te promènes dans les ruelles de Saint-Léonard ou de Villeray, tu regardes un peu dans les cours, puis tu remarques que c'est comme une espèce de ramassis qui a l'air un peu bordélique. Mais non, détrompez-vous, ce n'est pas bordélique, c'est organisé, OK? Parce que, exemple, le tissu, une vieille chemise de mon nonno devenait, après 3, 4 paires d'épaules plus tard, un torchon. Eh oui, mais souvent, ce torchon-là n'avait pas fini sa vie.
parce qu'il devenait simplement, je ne sais pas, mais peut-être un petit fil pour attacher les plants de tomates. Mais avec quoi on attachait les plants de tomates? Ben avec les vieux bâtons d'hockey! Ben oui, rien ne se jette, tout se garde, parce que tout peut servir. Manon nous disait toujours, « Jette pas ça! » Ça peut servir à un moment donné. La prochaine fois que vous vous promenez, puis vous allez voir un petit peu dans les jardins des Italiens, comprenez que c'est comme une espèce de musée historique, OK? La récupération, le réemploi, la réutilisation des matériaux, le recyclage à l'italienne, c'est simple, efficace et surtout plein de cœur et d'histoire. Ce ne sont pas des déchets, mais des trésors. Et si vous voulez que l'indice de circularité mondiale monte, engagez une nonna italienne. Merci Bravo. Beaucoup.
De rien. Mais n'en déplaise à ta nonne.
Ma nonne.
Moi, ma mère, là, elle avait des fils longs de, je ne sais pas moi, 10 pouces. Bien, ils étaient tous tournés autour d'un carton parce qu'on ne sait jamais pour reposer un bouton ou des trucs comme ça pour le rapiessage.
Oui.
Puis c'est une Québécoise, Purline de la rue Bourbonnière.
La Bourbonnière!
Oui, la rue Bourbonnière, c'est comme ça qu'elle disait ça.
Mais il y a quelque chose de culturel là-dedans, puis je vais juste rajouter, tu sais, les Italiens, je pense que culturellement, il y a un amour de la lenteur, puis un amour de prendre le temps de faire les choses, de les faire bien, ils aiment les choses de qualité, les Italiens.
Mais toujours dans la simplicité, je dirais aussi.
Oui, puis on accepte la patine. T'sais, on accepte que les choses vieillissent puis qu'il y a de la patine, puis c'est beau. T'sais. C'est pour ça que l'Italie, c'est aussi beau. Puis en tout cas, puis c'est parce que nous, ben, on est dans une culture de tout va vite, tout est jamais assez rapide. Puis faut que tout soit automatisé, puis on veut plus se casser le bécic pour rien. Mais moi, je trouve qu'il y a des leçons à apprendre de ça.
J'ai une réponse à ça. Depuis que je suis à la retraite, j'ai du temps. Et j'ai remarqué que le temps me faisait apprécier le temps que ça prenait à faire les choses. Mm. On vit dans une société trop stressante. Faudrait arrêter ça. Puis on parlait d'économie, là. Puis je pense qu'on gagnerait, si on gagne du temps, on gagnerait de l'argent.
Bien sûr.
Mm-hmm. Parce que c'est fou tout ce que j'accepte que ça prenne du temps à faire des trucs qu'avant, je disais, j'ai pas le temps. T'sais.
Parce qu'on s'éparpille, en fait.
On s'éparpille.
Oui.
Anne-Marie, est-ce que je me trompe si tu voulais réagir à ce que disait Marianne?
Ah, ben, ça me fait plaisir de réagir. Moi, justement, quand on parle de ces questions-là, là, sur les habitudes de consommation, moi, je dis toujours de s'inspirer de nos grand-mères puis de nos parents qui étaient parfois par nécessité, là. Moi, quand je pense à ma grand-mère puis à ses 10 enfants, ben, il n'y a pas un petit bout de tissu qui se perdait.
Non.
les traditions de la courte pointe viennent de là, d'ailleurs. Rapiécer les vêtements pour qu'ils se passent d'un enfant à l'autre. Je veux dire, c'est des bonnes habitudes qu'on doit continuer de prendre. Puis moi, à chaque fois que je répare les vêtements de mon enfant, le soir, avant de me coucher, même si j'ai les yeux un peu fatigués, je pense à ma grand-mère qui... On dirait que ça coule dans mes veines, là, qu'on gaspille pas. Il y a quelque chose de peut-être d'Italien, mais peut-être de Québécois aussi. En fait, tous les peuples qui ont peut-être eu des parcours un peu plus arides, là.
Oui, c'est ça.
On est habitué de prendre soin des choses. Puis il faut pas que ça se perde, il faut le transmettre, ça.
Il ne faut pas se rendre à Amélie Bordelot qui était allée chercher les poches de jute dans la rivière pour faire des manteaux puis des vêtements, là, pour ceux qui ont gardé. voyons, Jeannie-Claude.
Bien, moi, j'ai entendu et beaucoup aimé le mot « créativité » répété à plusieurs reprises. C'est quelque chose avec lequel on a besoin de renouer. Notre capacité à faire les choses, notre façon d'imaginer les choses, notre débrouillardise aussi. Hein? J'entends dans tout ce qui a été nommé le système D québécois et italien. Il faut se permettre de se créer l'espace, donc le temps, et aussi les espaces physiques. La couture, on voit souvent ça comme quelque chose de solitaire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas quelque chose de plus collectif, de plus communautaire, de se rassembler ensemble, de coudre ensemble, de s'échanger des trucs, d'apprendre des autres aussi, d'échanger nos vêtements. Donc, vraiment d'utiliser le vêtement comme lien social.
Il commence à y avoir d'ailleurs des sites d'échange de vêtements, là.
Ah oui, puis il y a des belles communautés très, très florissantes. Là. Si on regarde un petit peu sur Internet, il y a des groupes aussi, des fois qui se ramassent dans des parcs pour faire de la couture. Donc, il y a beaucoup de belles initiatives qui permettent d'apprendre des autres et de briser aussi l'isolement de façon générale. Là.
Oui.
On fait des soirées de réparation gratuites à l'atelier où on donne nos trucs aussi. Les gens apprécient beaucoup. Ils amènent leurs vêtements et repartent avec leurs vêtements réparés. Puis moi, les vêtements que je répare, en tout cas selon mon enfant, sont plus cool qu'avant d'avoir des trous parce que souvent je brode des fleurs ou tu sais, des soleils, des choses dessus, ils deviennent plus intéressants, il y a plus de plaisir à les mettre. Des fois, il revient à l'école et dit « Yes, j'ai fait un trou dans mon jogging pour pouvoir me faire un motif ».
Bien là, on en voit plein sur YouTube, Instagram et compagnie, là, des trucs justement pour raccommoder. En Europe, parce que je me doute bien que tu viens pas de Shawinigan, Jules, en Europe, il me semble que l'habitude est mieux établie parce qu'on est des Nord-Américains, on est des consommateurs, tu sais. C'est dur à perdre ces vieilles habitudes-là.
Mm-hmm. Ben, c'est étonnant, mais j'ai quand même découvert la culture de la friperie à Montréal, en France. Bon? J'étais jamais allé dans des friperies. C'est vraiment en arrivant à Montréal pour étudier que j'ai commencé à découvrir et à aller dans les friperies Renaissance.
Ben, tant mieux pour nous. Ah ben c'est bon.
Mais au niveau par exemple de la cordonnerie, il y a un vrai renouveau de la profession en France grâce au bonus réparation. En fait, en France, ils ont créé une taxe fast fashion. C'est minime. Sur chaque habit, tu vas payer 3-4 centimes. Mais ça fait 200 millions d'euros, 300 millions de dollars par an qui sont redistribués pour réduire d'environ 25% les prix de la réparation. Et ça a fait énormément de bien à la profession. Je parle à beaucoup de cordonniers. Ils ont trop de demandes de stagiaires en ce moment.
Ah, c'est bon.
Et ici, c'est complètement l'inverse. Je veux dire,
non, mais moi, j'en ai plus dans mon quartier.
Exactement. L'âge moyen, c'est 66 ans. Il n'y a plus d'école en Amérique du Nord. Donc, on imagine que dans 5 ans, il va rester 3 cordonniers à Montréal.
Ah non, c'est pas vrai. Mesdames, quelles sont vos habitudes, vos bonnes habitudes en ce qui a trait à l'économie circulaire? Parce que ça fait longtemps qu'on a entendu Claude Maheu-Picard. Je pense que... Hein?
Oui. je vais me confesser aujourd'hui devant tes auditeurs, Louise.
Oh non!
Moi, j'adore acheter des vêtements.
OK.
Ouais. Mais j'achète localement, de la qualité. Puis j'ai célébré la semaine dernière mon 20e anniversaire au centre de recherche. Puis les employés avaient préparé un petit diaporama de photos. Et j'ai constaté que j'avais certains vêtements depuis très longtemps.
Ah bon?
Donc, j'achète de la qualité, ça dure longtemps. Je m'assure d'avoir des vêtements intemporels aussi, avec des coupes qui vont durer dans le temps. Par exemple, j'ai acheté des chaussures dont le talon peut être remplacé aussi. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je soigne un petit peu ma condition en essayant d'acheter local et de bonne qualité.
Bien, je pense que l'idée, c'est d'être conscient puis de faire à petits pas telle chose, parce que à mon âge vénérable, moi, ma façon de consommer s'est modifiée, a évolué et évoluera encore, j'espère, pour être, mon Dieu, une très bonne consommatrice qui n'exagère pas. Mais en même temps, bien, tu sais, je suis une femme, je ne suis pas correcte. Mais j'aime la mode, j'aime énormément. Tu sais, j'ai une formation de design, là. Tu sais, tout ce qui est esthétique, puis tout ça, j'aime ça. Mais, tu sais, il faut se transformer. Et puis, Natacha?
Bien, c'est intéressant que tu dises qu'il faut se transformer. Moi, c'est ça que je dis. Il faut se donner la peine de faire autrement. Je pense qu'il y a plein de choses qui existent présentement. On a plein de solutions à Montréal. On peut, justement, si on devient un peu tanné de nos vêtements, etc., bien, on peut aller chez Schwab Club, puis on va pouvoir les échanger avec d'autres. Donc, le trésor certains vêtements, on va pouvoir faire de l'échange. Après ça, on peut aussi, si on a une belle soirée, on peut aller chez Louer une robe ou quelque chose comme ça, la petite robe noire, puis louer une robe. On peut faire de la réparation. On parlait beaucoup de réparation aussi. Donc, il y a vraiment plein de possibilités qui s'offrent à nous, puis de plus en plus, je dirais, de solutions pour, même si on est un peu accro à la mode, puis qu'on a le goût, on a quand même le goût, puis ça fait du bien de se sentir bien, puis de se sentir belle, etc., mm-hmm. bien, il y a plein de façons de le faire, tout en respectant quand même nos valeurs. Je pense mm-hmm. que c'est ça qui est intéressant, puis c'est de s'informer, de voir qu'est-ce qu'il y a. Puis à Montréal, il y a tout un écosystème avec Trolley, avec toutes les autres qui sont en train de se mettre en place. Jeannie-Claude, comme elle disait, avec sa communauté de designers, c'est plein de designers, c'est plein de gens qui font de l'upcycling, qui font plein de choses. Donc, on peut quand même trouver des solutions, puis changer tranquillement. Ça veut juste dire de voir les choses autrement, mm-hmm. de s'ouvrir un peu à, ben oui, j'ai le goût de ça, où je pourrais le trouver, comment je pourrais le faire, puis je pense que c'est ça qu'il faut penser.
Oui, Claude?
Je veux juste rebondir là-dessus, parce que là, on parle de notre comportement comme consommateur individuel, mm-hmm. Mais les entreprises aussi peuvent réfléchir à ces choix-là. T'sais.
Ben oui.
J'imagine, Natacha, le service des approvisionnements de la ville qui habillerait ses cols bleus en atelier B, serait-il pas merveilleux?
Ah! Ben, c'est drôle que tu parles de ça, Claude, puisqu'il y a tout un projet au niveau des uniformes. Tu sais, les uniformes à la ville de Montréal, on a l'impression, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est plusieurs millions par année de dollars qui sont dépensés en uniformes. Fait qu'on est en train de voir comment on pourrait créer des boucles plus circulaires, puis peut-être même insérer la réparation et le réemploi aussi dans ça, alors que présentement, c'est pas ça. Mais c'est pas des choses simples, puisqu'il y a des conventions collectives qui exigent un certain nombre de vêtements, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont en train.
Puis il faut que ce soit unifugé, j'imagine, certains vêtements.
Ça dépend des vêtements,
mais ça, c'est facile à faire, là.
Ça dépend des vêtements. Mais effectivement, mmh. on est en train de réfléchir. C'est un des secteurs qu'on est en train de regarder. C'est 3 milliards hein, d'achats à la Ville de Montréal par année. Donc, mmh. si effectivement, on intègre ça dans l'approvisionnement des critères de circularité ou des façons de faire autrement, on peut vraiment avoir un impact sur le marché.
Quelqu'un d'autre? Oui?
J'ai une question. Est-ce que ce projet de circularité-là va continuer d'exister si l'administration change?
Bien, notre feuille de route, c'est une feuille de route 2024-2030.
Okay.
Donc, bon. Il y a un premier plan d'action.
C'est pas Trump qui est là. Fait que...
Donc, théoriquement, oui, ça a été approuvé par l'ensemble des élus. Il faut comprendre que ça a été approuvé au conseil municipal et au conseil d'agglomération. Donc, l'ensemble des élus de tous les partis ont approuvé ce plan-là. Fait que oui, j'ai bon espoir. Puis comme je le dis, comme on voit que c'est quand même une opportunité économique et de faire les choses autrement, ça risque de rester parce que ça rend beaucoup les entreprises beaucoup plus résilientes.
Mm-hmm. OK.
Bien, il faut continuer. On est devant quelqu'un de la Ville de Montréal. Je ne sais pas si on ne devrait pas, des fois, je ne sais pas si vous pouvez intervenir à ce niveau-là. Je me souviens d'une boutique sur Saint-Denis où c'était les vêtements qu'avaient portés les artistes lors d'entrevues à la télé ou lors d'un film ou lors d'une pièce de théâtre. Et puis, ils revendaient ces vêtements-là qui étaient très chics et très swell, mais pour un prix dérisoire. Et puis ça l'a fermé. Puis là, ça m'amène à penser, est-ce que toute entreprise qui crée dans ce but-là ne devrait pas avoir une espèce de réduction de taxes ou quelque chose comme ça pour les encourager à rester demeurer? On oui. me fait signe que oui, là.
Jules en parlait tout à l'heure, hein, il y a une responsabilité élargie des producteurs là, qui est en vigueur en France. Donc, avec chaque achat de vêtements, il y a une petite partie qui est retournée. C'est un éco-frais, en fait, qui est retourné pour financer un système de recyclage. Il y a des usines de récupération en France qui vont reconditionner les tissus et les remettre en marché, etc. On pourrait envisager ça au Québec. Ça serait une belle, une belle initiative. Ça financerait le système, en fait.
Mm-hmm. 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 Oui, bien sûr, parce que j'allais vers toi, Jeannie-Claude.
Bien, moi, je trouve intéressant qu'Anne-Marie ait pu s'exprimer sur son entreprise. Tu sais, elle l'a dit, c'est une entreprise qui a été basée pour répondre justement à un manque qu'il y avait dans le marché. Donc, de développer des vêtements qui sont alignés avec des valeurs environnementales, qui respectent l'environnement. Mais ça, on l'a compris, c'est la volonté de l'entrepreneur. On ne peut pas prendre pour acquis que tous les entrepreneurs vont avoir cette volonté-là. On parlait des actionnaires un peu plus tôt. Les actionnaires sont là pour du rendement. Pour avoir du rendement, il faut faire de la marge de profit. Pour faire du profit, bien, c'est des entreprises qui profitent souvent du fait qu'il n'y a pas de cadre pour les droits des travailleurs ou pour l'environnement, pour pouvoir justement mettre les produits le plus bas possible à un prix très, très bas. Ce qui fait en sorte qu'on a vraiment un déficit de cadre présentement. On ne peut pas se fier sur la bonne volonté des entrepreneurs. Il faut arriver avec davantage d'incitatifs.
Plus de volonté politique aussi.
Oui,
ça passe par là.
Plus de bonus-malus, plus de punitions pour ceux qui font pas bien, puis des petites tapes dans le dos de ceux qui vont bien.
Oui, ben c'est ça.
On en a parlé souvent, Jeanne-Claude et moi, avec les groupes de les communautés, justement, de Concertation Montréal. Ça serait quoi d'un point de vue politique qui pourrait faire avancer les choses? Parce que on peut pas juste attendre que les gens aient envie de faire un geste pour l'environnement puis de changer leur modèle d'affaires. Ça avancera pas assez vite.
Mais là, moi, ce que j'entends de la Ville de Montréal est beaucoup plus encourageant que ce que j'entends des deux autres paliers de gouvernement, disons. Il devrait peut-être servir de modèle. Oui, justement, elle veut réagir, Natacha.
Bien, je veux quand même dire qu'au Québec aussi, ils ont adopté une feuille de route en économie circulaire. Donc, elle est différente. Elle s'adresse peut-être un peu plus au ministère que nous. Comme nous, ça s'adresse directement peut-être à l'écosystème d'affaires. Mais il y a aussi des avancées qui se font. Ils ne sont peut-être pas rendus là. On a des compétences différentes.
Avec Bernard Drainville, je ne sais pas si ça va continuer, ça.
Je ne me prononcerai
pas. Non, je sais bien. Je sais bien. Mais moi, je me permets.
Non, mais moi, je pense qu'il y a quand même une ouverture. Tu sais, je pense qu'il y a une belle volonté. Puis il y a un momentum en économie circulaire au Québec avec différents intervenants, que ce soit le milieu de la recherche, que ce soit le milieu de la concertation, que ce soit différents, là, vraiment les entrepreneurs eux-mêmes. Il y a vraiment, en tout cas à Montréal, on le sent, cette mobilisation-là. On recevait en avril dernier le Sommet canadien de l'économie circulaire. Plus de 1000 personnes quand même se sont déplacées d'à travers le Canada et même d'ailleurs pour venir discuter d'économie circulaire puis de comment on pourrait changer les choses puis comment on peut faire autrement puis comment aussi c'est rentable.
C'est ça, hein? Faut aller les chercher là où ça les sensibilise avec l'argent. Mais qu'est-ce que tu veux? Si ça peut fonctionner?
Bien, il n'y a personne qui va se lancer en affaires pour pas être rentable. Là.
Non, c'est ça, c'est
vrai. Je pense que c'est important quand même. Puis je pense que c'est une volonté. Oui, les villes, on est là pour... Les villes puis les gouvernements, on est là pour faciliter, après ça, mettre des cadres qui vient aider, mais on a tous nos réalités avec lesquelles on doit composer, mais je pense qu'on a aussi des incitatifs intéressants. La Ville de Montréal, on collabore avec Fondaction. On a collaboré avec Fondaction pour mettre sur pied le premier fonds en économie circulaire au Canada, qui soutient des entreprises avec Recyc Québec aussi. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Moi, ça fait depuis 2012 que je parle d'économie circulaire, fait que je vous dirais que c'est vraiment les trois dernières années que ça a pris son envol, fait que j'ai très hâte de
voir. C'est un long processus. vas-y.
Bien, moi, ce que j'entends aussi autour de la table, c'est que c'est une responsabilité partagée par le politique, par les entrepreneurs, les entreprises, par les citoyens, les consommateurs aussi qui achètent ces produits-là. Là. Donc, il faut vraiment faire équipe à différents niveaux pour pouvoir tous ensemble résorber cet enjeu-là au niveau de l'environnement.
Bien, je peux vous dire qu'il y en a une collaboration parce que si tout le monde ici est à la table, c'est qu'il y a une personne qui avait des liens avec tous ces gens-là. Puis chaque personne, j'imagine, a des liens avec d'autres personnes. Puis, tu as parlé, Natacha, de 1000 personnes à cette rencontre-là. Donc, il y a de l'espoir. Et puis, je pense à mon fils qui était en sciences de l'environnement. Ça doit être rassurant pour toi. Et même chose que pour Marianne.
Bien, c'est beau de voir toutes les initiatives. Là. En fait, ce serait le fun aussi, au-delà de...
Alexis,
ce serait le fun d'avoir des... Bien, il va, comme tu dis, il va y avoir des liens pour les gens qui cherchent tout ça en dessous de le lien d'émission, là, donc sur Facebook et sur le site de CIBL.
Facebook et Instagram, très d'union.
Mais en fait, c'est ça, c'est le fun s'il y avait des outils pour les différents types d'implications dont on a besoin. Tu sais, là, on a parlé des entreprises, des individus, des gouvernements, des municipalités, même au Québec. Tu sais, je pense qu'il y a toutes sortes de... tu sais, Montréal, c'est gros. Il y a beaucoup de moyens, mais on sort de Montréal, il y a toutes sortes d'autres défis qui... En tout cas, il y a tellement de choses intéressantes qui pourraient être faites. Ce serait le fun d'aller regrouper des ressources pour que les gens qui ont envie de faire quelque chose puis qui sont inspirés par qu'est-ce qu'ils entendent aujourd'hui, puissent le faire.
Mais il faudrait redorer les couleurs ou le cercle des fermières qui, maintenant, s'est rajeuni puis a toujours travaillé dans ce sens-là. Alors, en région, on a ça, mais il faudrait arrêter de les voir comme étant des damagers qui font des pantoufles en fentex, ouais. là, ça va beaucoup plus loin que ça. Là.
Si je peux me permettre, je les ai rencontrés la semaine passée. Ils ont ouvert leurs ateliers et c'était extraordinaire. Puis pendant les Journées de la culture, ils ouvrent encore leur atelier pour montrer aux gens ce qu'ils font.
Ah,
le cercle des fermières.
Le cercle des fermières, c'est un peu comme les mères au front, mais elles sont de connivence, ma foi. C'est extraordinaire. Alors, comment, pour clore le tout, parce qu'après ça, il va falloir fermer la patente. Hein? Est-ce que tout le monde fait l'effort qu'il souhaiterait faire? Est-ce qu'il y a encore des petites choses là, que... Oui, Cathy fait signe que...
Ben oui. Parce qu'on tombe facilement dans la facilité, dans la vitesse. Puis je fais partie de ta gang-là des fois aussi.
Bon, on fait ce qu'on peut. Écoutez, je dois dire merci à tout le monde. On dit au revoir. Je vous remercie les personnes qui sont autour de la table encore maintenant. Natacha Beauchesne de la Ville de Montréal, merci infiniment.
C'est un plaisir.
Merci. Je suis vraiment contente de vous avoir comme allié, mettons. On avait Mariouche Gagné de Arikana qui a quitté un petit peu plus tôt. Anne-Marie Laflamme qui est au bout du fil puis à qui on dit merci et au revoir et à une prochaine, j'espère.
Merci à vous.
Ça fait plaisir. Claude Maheu-Picard de CTTEI.
Merci.
Ça fait plaisir. Marion Paquette, qu'on a entendu tout à l'heure. Jules Trollet de Trollet qui, ce soir, a un événement. Ça se passe où?
Ça se passe au 717-111 rue Chabanel-Ouest. Et en fait, c'est la grande soirée de la mode circulaire. C'est vraiment dans le thème de notre échange aujourd'hui avec Renaissance et différents acteurs.
On est très d'actualité ici. Merci à Jeannie-Claude Vien de Concertation Montréal.
Merci de m'avoir invitée. Et ça sera un plaisir de croiser certaines personnes peut-être dimanche à l'événement Remode.
Puis peut-être ce soir.
Et aussi ce soir, certainement.
J'y serai dimanche.
Oui, puis à l'équipe Formidalis que forment Cathy Foucault et Marianne Frève, mes Amazones.
Merci.
Bye. À la semaine prochaine. Puis à Alex Curado-Codard, que j'aime, que j'adore, parce que c'est mon fils.
Et à la mise en onde.
Ah oui, il y a moi, il y a Louise Curado. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes. C'est aussi accessible via la page CIBL 101,5. Surtout en direct le vendredi à 14h et en reprise les lundis à 13h30. Revenez-nous donc la semaine prochaine et les autres vendredis sur les ondes de CIBS 101,5, la Radio Libre de Montréal. On écoute MC Solar qui nous laisse avec sa chanson judicieusement choisie, Victime de la mode. Tourlou!
Dans lesquels le psychopathe trouvait le retour ultime. Mazon, à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ dans le pic. Elle était une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Lumière, scène de l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donnée, en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi, font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London, to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ. Quand lui pique, elle est fesse, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion, à la logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont attestés, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tactique attaque, tout éthique avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce funky beat. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ. Car on lui pique, elle est fesse, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode.
tel est son nom de code.
Tous les dimanches, 13h, jouez avec nous au Bingo Radio de CIBL. Il y a 3 500 $ en prix. Toujours en direct sur CIBL 101,5 FM et aussi sur Vidéotron 574, Bell 959 et CIBL 101.5.ca. Procurez-vous vos cartes du bingo dans un point de vente près de chez vous. La liste complète est sur CIBL 101.5.ca, onglet Bingo Radio. Merci de soutenir votre radio, la seule radio communautaire francophone de Montréal depuis 45 ans. C'est donc un rendez-vous dimanche 13h. Invitez vos amis et bonne chance. Bingo, bingo, bingo!
Excusez-la.
Vous aimez le folklore et la tradition? Eh bien, Excusez-la est le rendez-vous tout indiqué pour vous. Il s'agit d'une émission dédiée à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise qui explore différents volets, que ce soit par des entrevues avec les artistes, par leur apparition de nouveautés ou par des chroniques sur des sujets précis. En compagnie de Marc Bolduc, tous les dimanches de 17h30 à 19h. Soyez au rendez-vous et en avant la tradition.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion jeudi 11h sur les ondes de CIBL 101.5.
Le monde du travail, c'est pas juste des horaires et des contrats. C'est vos droits, des tendances, des enjeux qui nous concernent tous. Et pour ne rien manquer, branchez-vous chaque mercredi dès 11h sur CIBL. Le mode d'emploi, animé par Mélanie Beaulieu, vous éclaire avec humour, clarté et une ambiance musicale pas banale. Ne ratez pas ce rendez-vous essentiel, le mode d'emploi toujours pertinent, jamais ennuyant.
CIBL.